Les informations, Lénaïque Monnier, Bernard Poiret.
Lénaïque, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une ce matin, ces dégâts très considérables après de violents orages dans le nord de la Drôme.
Et un drame notamment pour les cultivateurs. En quelques minutes, certaines récoltes ont été détruites. Reportage d'ici quelques instants. Soutane et casque de chantier, première messe célébrée hier à Notre-Dame de Paris, 2 mois après le dramatique incendie. Et puis on vient de le dire, le Stade toulousain est champion de France de rugby. On entendra les supporters des Rouges et Noirs, évidemment ravis.
Europe 1. Considérables dégâts dans la Drôme hier, un puissant orage a balayé plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Grêle, orage ont causé des dommages à Romans-sur-Isère. Les grêlons de la taille de balles de tennis ont endommagé des bâtiments privés et publics sur toute la ville. Les vitres de certaines voitures n'ont pas résisté, des rues se sont transformées en torrents. Pour les cultivateurs, c'est également la consternation. Aurélien Esprit cultive des cerises, des pommes, des abricots. Et hier après-midi, il a vu son travail détruit en quelques minutes.
C'est arrivé honnêtement en même pas l'espace d'une demi-heure. Les nuages sont montés, on a vu des tourbillons. Et puis alors là, tout d'un coup, pour ceux qui étaient dans la voiture, pour ceux qui étaient dehors, eh bien, on s'est pris des gros impacts qui, sincèrement, auraient tué des enfants de 2 ans qui étaient dehors. Même moi, à un moment, je mettais les mains sur la tête pour me protéger. C'était vraiment très, très impressionnant, quoi. Et quelques minutes après, lorsque cela s'est arrêté, nous sommes donc allés constater sur les vergers. Alors là, on croit que c'est un cauchemar, quoi. J'ai déjà vu des gros grêlons par terre. Ensuite, j'ai vu des arbres qui étaient défeuillés. Et surtout, pour la première fois de ma vie, j'ai vu des fruits qui ont été tombés et mis au sol par la puissance de la grêle. Les fruits ont été carrément éjectés par terre et les arbres, à certains endroits, défeuillés. Tout le verger est détruit. Et là, toutes les questions se posent, quoi. Comment on va faire pour avoir même pas un salaire, mais comment on va faire pour payer, par exemple, nos annuités, nos crédits, nos emprunts. Et là, le drame commence, quoi.
Aurélien Esprit, arboriculteur avec Justin Morin, j'ajoute qu'en Haute-Savoie, une touriste allemande n'a pas survécu à ces violents orages, écrasée par la chute d'un arbre sur son camping-car.
C'était le moment du recueillement hier soir à Notre-Dame de Paris où la messe a été célébrée, la première messe depuis l'incendie du 15 avril dernier.
30 personnes, des prêtres ou des bénévoles qui travaillent sur le chantier ont pu y assister. C'est l'archevêque de Paris qui a dit la messe devant ce tout petit comité réuni dans la chapelle de la cathédrale, un lieu sécurisé. Le but était de célébrer un lieu de culte, une cathédrale toujours vivante, mais aussi de revoir l'intérieur de Notre-Dame 2 mois après le drame Justin Morin.
Les premières images de l'intérieur ont donné le ton. La statue de Notre-Dame protégée par des planches en bois, les trous béants dans la voûte et le sol de la nef encore recouvert de gravats. Et puis l'entrée, la marche d'une dizaine de prêtres avec l'archevêque de Paris en habit liturgique blanc et casque de chantier sur la tête. Dans la chapelle sécurisée, Monseigneur au Petit a rapidement délivré son message.
Voilà, la cathédrale est toujours vivante puisqu'on y célèbre encore l'Eucharistie.
Le prêtre Pascal Golnisch était présent lors de la cérémonie. À la sortie, il n'a pas caché son émotion.
Moi, c'était la première fois que je rentrais dans Notre-Dame depuis l'incendie. Donc j'étais quand même choqué par l'état de destruction. Mais quand même, l'essentiel a pu être préservé. Donc on est plein d'espérance. Voilà, un jour, cette cathédrale sera de nouveau ouverte pour la prière avec les fidèles.
Avec le prêtre, il n'était qu'une trentaine à l'intérieur. Mais ils ont ressenti la présence de tous ceux qui ont été émus par l'incendie. Après la cérémonie, Monseigneur au Petit a une pensée particulière pour eux.
Moi, j'ai reçu beaucoup de messages. Il y a beaucoup de jeunes enfants qui m'ont écrit des poèmes sur Notre-Dame. Et puis des gens d'étrangers qui m'écrivaient un petit mot avec un petit billet dedans. Et c'est leur petite pierre à eux, mais cette petite pierre, elle est précieuse. Et la messe que j'ai dite, c'est aussi pour tous ces gens-là.
Quant à la question d'une prochaine messe à Notre-Dame,
sincèrement, j'ai pas de plan prévu.
Il est selon lui encore trop tôt pour le dire.
Justin Morin pour Europe 1.
Demain, à 8h, l'épreuve de philosophie au baccalauréat. Enfin, si toutefois cette épreuve a lieu.
C'est la question qu'on se pose. Est-ce que la grève va perturber la tenue du bac cette année? Plusieurs syndicats appellent au boycott de la surveillance des examens. Alors à quoi peut-on s'attendre? Les explications de Virginie Salmen.
Le risque est très minime, tout simplement parce qu'il y a plusieurs centaines de milliers de professeurs, de personnels administratifs susceptibles de surveiller une épreuve et donc de remplacer les éventuels grévistes. Et puis, le ministère a pris les devants. Un tiers de surveillants en plus ont été convoqués dans certaines académies considérées comme à risque, comme Toulouse, Marseille ou Créteil. Pour l'instant, pas question de réquisitionner des surveillants. Le ministère est simplement vigilant. Alors, il se peut que par endroit, il n'y ait pas tout à fait le nombre requis de surveillants surveillant demain matin. Dans ce cas-là, les proviseurs mobiliseront un surveillant affecté par exemple au couloir qu'ils mettront dans une salle d'examen, ou bien il n'y aura qu'un prof au lieu de deux dans une classe le temps que du renfort arrive. Ça, c'est un cas extrême, mais qui peut toujours se produire. Si vraiment les conditions de tenue de l'examen ne sont pas réunies dans un lycée, l'épreuve sera reprogrammée quelques jours plus tard avec le sujet de secours. Le ministère anticipe aussi le risque de piquet de grève qui perturberait l'entrée des élèves, mais les personnels n'ont absolument pas le droit d'empêcher les candidats d'entrer. Si c'était le cas, les forces de l'ordre interviendraient.
Virginie Salmen pour Europe 1. Impossible donc de se débiner. Le bac, c'est bien demain 8h pour 740 000 lycéens.
Où se cache le chauffard qui a tué un petit garçon de 9 ans et en a blessé un autre grièvement à Lorient dimanche dernier ? Sur place, là-bas en Bretagne, c'est l'incompréhension.
Voilà une semaine désormais qu'il s'est évaporé dans la nature. À Lorient, où le drame s'est produit, tout le monde attend que le jeune homme de 20 ans soit retrouvé. Comme cette habitante du quartier, ses petits-enfants sont scolarisés dans l'école des petits garçons qui ont été fauchés. Sa tristesse aujourd'hui est mêlée aussi de colère et d'incompréhension.
Vous vous rendez compte ? Une semaine, c'est pas normal, quoi. Il doit forcément avoir des amis, des complices, ce gars-là. Comment se fait-il qu'à l'heure actuelle, on le retrouve pas, quoi ? Ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Cette famille-là, elle vit dans l'attente, a besoin de faire son deuil, d'avoir des réponses. Là, elle n'en a pas des réponses, la famille. Sur l'enfant qui est décédé et celui qui est hospitalisé, il n'y en a pas de réponse, là. Il y a juste une jeune fille qui s'est rendue, qui a soi-disant resté 3 jours en forêt, qui d'un coup se réapparaît. Non, faut arrêter, quoi. Faut arrêter à un moment donné. Là, ce qui est important, c'est que ce jeune homme se rende, hein, qu'il comprenne que, bon... Ça ne sert à rien de fuir, de toute façon, il ne fuira pas toute sa vie.
Cette habitante de Lorient interrogée par Hélène Terzian, j'ajoute qu'un quadragénaire a été condamné hier à 4 mois de prison ferme. Il avait fait croire qu'il avait aperçu le chauffard dans la Nièvre. D'importants moyens avaient été mobilisés pour rien.
Vous vous êtes toujours rêvé peut-être en archéologue. Et ben ça tombe bien, les Journées nationales de l'archéologie fêtent leurs 10 ans d'existence jusqu'à demain.
Avis aux Indiana Jones en herbe et même aux plus âgés. Jusqu'à demain, partout en Europe, des chantiers de fouilles sont ouverts à tout le monde. Comme à Noisy-le-Grand, en région parisienne, où l'on peut fouiller un cimetière du Moyen-Âge avec des sépultures mérovingiennes et carolingiennes lors d'Autriche.
À quelques mètres d'une route départementale, ces dizaines de squelettes sortent de terre pour la première fois depuis 1000 ans. Cyril Le Forestier, archéologue à l'INRAP, supervise les opérations.
On a une matière osseuse très bien conservée, donc on va pouvoir vraiment bien faire parler ces ossements-là, essayer de voir toutes les maladies, l'arthrose, les maladies dentaires. Et moi, j'ai souvent envie que l'archéologie devienne comme un quotidien pour les gens, en fait, comme s'ils passent devant une boulangerie ou devant une exposition. J'ai envie également qu'ils passent devant un chantier, que ce soit quelque chose de naturel, que ça rentre réellement dans la vie de tous les jours, l'archéologie, pas uniquement l'archéologie qui fait rêver. Dans les pays lointains.
Centimètre par centimètre, le groupe d'archéologues fait apparaître ses crânes, ses ossements de mains ou de pieds. Alexandra Demeure, étudiante en histoire de l'art, fait aujourd'hui son premier chantier de fouilles.
Le plus difficile, c'est vraiment de devoir faire attention à ne pas casser un os ou à ne pas l'enlever sans faire exprès. Il ne faut pas avoir envie d'aller trop vite parce que c'est là où on risque de tout détruire. Il faut être patient et puis il faut avoir la passion aussi. Ça a commencé avec l'égyptologie, comme beaucoup d'enfants, et ça ne m'a jamais vraiment quittée. Du coup, voilà, j'y suis.
Et sur ce chantier, les archéologues auront 3 ans pour fouiller une surface de 300 mètres carrés.
Lors d'Autriche pour Europe 1.
Joie immense hier, bien sûr, et sans doute également toute la nuit à Toulouse, la ville rose. Pourquoi ? Eh bien parce que l'équipe de rugby est championne de France du top 14.
Et c'est la 20e fois que les Toulousains gagnent le titre. Victoire 24-18 en finale contre Clermont. Après 7 ans de disette, le bouclier de Brennus revient au Capitole où les supporters ont regardé le match sur écran géant hier et que Stéphane Anselmetti a rencontré.
Le Grand Toulouse est de retour avec une très belle saison qui se clôture ce soir. Et en plus, contre Clermont, le deuxième de l'année, c'est super, quoi. Franchement, on montre qu'on domine la France actuellement et ça fait plaisir.
Ah, c'est merveilleux. Tant d'années qu'on attend ça, j'en reviens pas. Hein. C'est énorme. Je trouve même pas les mots. Quoi. C'est plus que mérité. On n'est pas rentré là. Hein.
C'était un match très difficile et on est très contents pour Toulouse. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait et bravo aux finalistes, c'est une très belle équipe aussi.
C'est quelque chose d'énorme, c'est tellement d'émotions et magnifique de voir tout le monde en joie et en communion comme ça, c'est incroyable. Ce soir, ça a bien rigolé. Pour certains, il y a le bac, donc on va faire attention.
Nous sommes très heureux, on est là, c'est Toulouse, on a gagné, on est champion de France.
Avec l'accent.
Oui, avec l'accent et avec la voix sans doute un peu cassée ce matin. On imagine ses supporters au micro de Stéphane Anselmetti.
Il est 6h10.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle.
Le mondial féminin, on en parle ce matin avec les Bleus qui préparent leur match de demain face au Nigeria.
Match qu'il ne faut pas prendre à la légère, même si les Bleus sont déjà qualifiés pour les huitièmes. Le but, c'est la tête du groupe. Pour cela, Corinne Diacre dispose de tout son effectif. Alors, est-ce qu'elle va faire tourner un peu ? C'est à la coach de trancher, mais c'est plus que probable. Pour la milieu de terrain, en tout cas, Élise Bussaglia, qui a déjà disputé deux matchs de compétition, les joueuses, toutes les joueuses doivent être prêtes.
C'est vrai que c'est bien de pouvoir garder le rythme et de rester en jambes, mais c'est bien aussi que d'autres filles prennent le relais, parce que c'est important. Si on veut aller au bout de la compétition, il faut compter sur les 23. Après, personnellement, je sais que si je ne démarre pas, ou même que je ne joue pas du tout, je travaillerai à l'entraînement pour garder le rythme, et j'ai une totale confiance dans le staff et dans notre prépa physique, donc il n'y a aucun souci là-dessus.
Élise Bussaglia, milieu de terrain de l'équipe de France avec Julien Froment.
Ambiance studieuse et concentrée aussi pour les Bleus qui vont jouer encore demain dans un stade plein à craquer.
À guichet fermé au Roazhon Park de Rennes, ça c'est un premier pari gagné. C'était la même chose au Parc des Princes comme à Nice. Les joueuses n'ont pas l'habitude de ce type d'ambiance en championnat. Maëva Clémaron n'a pas encore joué, mais sur le banc, elle profite de chacun de ces moments.
C'était énorme. C'était ultra intense. Franchement, moi, j'avais jamais vécu ces émotions-là jusqu'à aujourd'hui. Et du banc, c'était... Ouais, j'ai pas les mots, mais c'était très prenant. J'ai eu l'impression de jouer aussi. Enfin, je veux dire, mentalement, on était à fond derrière nos coéquipières sur le terrain. Et sur chaque action, nous, sur le banc, on est à 200%. Et en plus, avec l'engouement, enfin le public, le son, enfin je veux dire tout résonne dans le stade et c'est une ambiance énorme et on le vit à 200% autant. Au moins autant que les collègues sur le terrain.
La milieu de l'équipe de France, Maëva Clémaron.
Voilà pour l'équipe de France. On regarde ce qui se passe tout de même ailleurs avec les Pays-Bas, notamment qualifiés pour les huitièmes.
Très belle sélection du groupe E qui a battu hier le Cameroun 3-1. Les Néerlandaises, en plus, ont mis l'ambiance hier à Valenciennes où se déroulait la rencontre. Kevin Thuyer a rencontré quelques-uns des fans dans les rues.
C'est gay, c'est merveilleux. C'est surtout le orange qui est impressionnant. Depuis que je suis arrivée de chez moi, je ne vois que du orange.
Ça fait du bien parce qu'on est très attaché au football. Et c'est vrai que montrer qu'effectivement il y a du football féminin qui prend la même popularité que celle des garçons, c'est vraiment plus qu'extraordinaire.
Les réactions donc de ses supporters hein, de Valenciennes
avec Kevin Thuyer. Et autre équipe qualifiée pour les huitièmes, c'est le Canada.
Là encore, ce n'est pas une surprise et c'est dans ce même groupe E. Le Canada a battu la Nouvelle-Zélande 2-0. Aujourd'hui, on suit le groupe F avec États-Unis-Chili, c'est au Parc des Princes à 18h. Et un peu avant, Suède-Thaïlande à Nice à 15h.
Pardonnez-moi les naïcs, j'ai loupé la relance après le son de Kevin Thuyer parce que j'étais en train de regarder les SMS qui tombaient sur l'écran. C'est mal, on ne peut pas faire deux choses à la fois, surtout quand difficile. On est un garçon. À tout à l'heure pour votre journal de 7h, sans faute.